Alors, le premier repère, c'est déjà souvent, on entend parler dans l'éducation nationale ou en situation d'éducation de thèmes du développement durable. Or, la première chose, c'est que c'est très restrictif de parler de thématiques. Oui.
Est-ce que je peux savoir ce que ça veut dire SN?
Oui, je vous le dis tout de suite. Non, mais vous avez raison, hein, quand je vous réponds ça, c'est pas pour vous empêcher de poser des questions, au contraire. Et donc, il est mieux de faire référence à ce qui existe parce que ça a été, ou soit ça a été débattu, soit c'est en cours de débat démocratique, qui est la stratégie nationale du développement durable. Et cette stratégie nationale du développement durable, on en est à la deuxième pour la France. Il y en a une qui est définie au niveau européen, donc elle n'est pas nationale, mais c'est la stratégie européenne du développement durable. C'est intéressant d'aller regarder ce qu'il y a dedans, puisque c'est ça qui va donner la norme pour l'action publique, en fait. Hein. Et là, on voit bien le développement durable qui devient une norme pour l'action publique. Mais cette stratégie... Alors après, il y a la question de savoir quelle est la relation entre la stratégie nationale et la stratégie européenne, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes contenus tout à fait, etc. Bon, ça, c'est les problèmes hein, de la gestion européenne des choses. Les dates, il y a un point d'interrogation, parce que nous en sommes à la deuxième stratégie nationale. Sauf que vous voyez, on est normalement, la deuxième devait être 2010-2013. Il y a un retard hein, qui a été pris. Donc elle est en cours d'adoption, nous sommes en 2011, c'est pour ça qu'il y a un flou sur les dates. En tout cas, cette stratégie va être débattue et approuvée par l'Assemblée nationale, et donc à partir de ce moment-là, elle s'imposera à nous en tant que citoyens et donc aussi en tant qu'éducateurs. Et vous voyez que cette stratégie, qui est pas vraiment une stratégie parce qu'il n'y a pas de définition d'objectif, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas vraiment d'objectif hiérarchisé, il n'y a pas une planification. Et on peut comparer ce qui se fait là dans d'autres pays. Si on regarde par exemple la Finlande, en Finlande, la stratégie nationale du développement durable et la stratégie d'éducation au développement durable a été forgée il y a déjà quelque temps, construite et de façon très précise, avec des objectifs très précis, tant qualitatifs que quantitatifs, et avec une planification rigoureuse, c'est-à-dire à telle date, il doit y avoir 30% des établissements rentrés en démarche de développement durable, etc. Et donc avec des objectifs très précis, une évaluation très précise qui va conditionner, en fait, après l'obtention des reconnaissances nationales de l'établissement, parce qu'on est dans un système qui n'est pas du tout centralisé comme le nôtre. Enfin, voilà. Ici, en tout cas, cette stratégie, elle reste simplement, pour l'instant, un peu trop indicative, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'elle est constituée en défis. Donc ce ne sont pas des thèmes, ce ne sont pas des thématiques. On ne cherche pas à parler à propos de ceci ou cela. Ces défis, c'est au sens propre hein, de ce que ça signifie. C'est quelque chose qui se pose à nous et que l'on doit résoudre. Normalement, dans une véritable stratégie, on doit résoudre dans un certain temps. C'est-à-dire on a un laps de temps pour le faire. Là, ce qui manque, c'est ça, hein, c'est le laps de temps. Donc ces 9 défis, le changement climatique en relation avec l'énergie, les transports, la consommation et la production, la conservation et gestion de la biodiversité, les questions de santé publique, l'insertion sociale, démographique et l'immigration, les défis internationaux, la pauvreté dans le monde, donc les aspects sud, la société de la connaissance, vous reconnaissez hein, les thématiques cette fois au niveau européen, et les questions de gouvernance. Donc, tout ça se pose à nous. Ça veut dire que tout ça est transformé par l'idée de développement durable et posé par la question du développement durable. Alors comment on y répond à ces défis? Comment on les résout, ces défis? Quelles solutions on apporte? La stratégie doit normalement produire des indicateurs de l'évolution, de la transformation. La question qui se pose à nous, c'est puisque ça, c'est le cadre qui est défini démocratiquement, c'est quelle contribution de l'école à ces défis en tant qu'acteur du milieu institutionnel d'éducation. En tant que citoyen, après, on a toute notre liberté pour discuter cela. Mais sinon, on doit se poser et se placer dans cet ensemble-là. Donc, une première chose à regarder, c'est parmi les projets, lorsqu'ils sont proposés, est-ce qu'ils répondent à des défis de la stratégie nationale ou ils sont à côté ? Probablement, dans les années à venir, il y aura une sélection de certains éléments. Le Conseil économique, social et environnemental dont je vous parlais ce matin, lui a proposé d'en retenir simplement quelques-uns pour fixer comme ça une hiérarchie et un temps. On ne peut pas tout régler en même temps. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire très rapidement. Par exemple, l'idée de changer la façon de se déplacer est peut-être plus compliquée que d'autres thématiques comme la biodiversité. La façon de transformer notre production agricole est peut-être plus compliquée complètement qu'autre chose, etc. Hein? Donc il y a une hiérarchie à faire dans tout ça, mais on peut regarder ça déjà. Ensuite, du point de vue de la politique éducative, en gros, on a dit ce matin que le développement durable, c'est un processus de transformation. Alors de transformation de quoi ? C'est un processus double. Il s'agit de transformer la société tout en se transformant soi-même. Et c'est en se transformant soi-même que l'ensemble va aussi être transformé. Le deuxième point, on a parlé de contenu un peu mouvant, en tout cas débattu, controversé, du compromis qui évolue dans le temps. Donc là, c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi, c'est le côté non stabilisé de tout ce qui concerne les questions de développement durable. Le troisième point qui peut être intéressant, c'est de regarder les intérêts. Dès qu'il y a médiatisation de telle ou telle question, ou aller rechercher les intérêts de chacun des groupes sociaux par rapport aux défis qui étaient listés préalablement, et analyser les argumentations de chacun de ces groupes sociaux peut être pertinent pour apprendre à dévoiler quels sont les intérêts, le biais qui est apporté, voire les idéologies portées par chaque groupe social ou politique. Et puis donc, plutôt prendre non pas les piliers, mais on va y revenir plusieurs fois pour trouver le pourquoi, mais bien se positionner en termes d'enjeux dans ce que l'on va mettre en place du point de vue éducatif. Alors l'analyse des textes officiels d'encadrement, mais aussi ceux du Grenelle, en tout cas de la commission, ce qu'on appelle la commission Bréjon, c'est-à-dire la commission qui a suivi le Grenelle. Vous savez que le Grenelle avait largement oublié l'éducation, s'il n'y avait pas de représentation des acteurs éducatifs dans le Grenelle. Donc il y a eu après une commission de rattrapage, mais qui a été très... Rattrapage, c'est moi qui le dis, qui a été très brillamment piloté par Jacques Bréjon. Donc c'est une mission interministérielle qui a élaboré un rapport, rendu un rapport, qui donne des repères extrêmement intéressants, car suffisamment précis, sur ce que pourraient être les missions de cette éducation. En tout cas, celles que je vous propose là, elles sont à lire entre les lignes, mais elles ne sont pas les missions officielles, puisque l'éducation nationale n'a pas mis en place une détermination précise et officielle de ces missions. Au contraire, elles sont souvent dans les textes assez floues, voire contradictoires. Donc il y en a deux qui apparaissent en conformité avec la commission interministérielle Bréjon. C'est la première, une mission d'implication de tous les acteurs dans des actions de développement durable, donc qui est une mission de participation. Il s'agit de participer aujourd'hui à la transformation de la société à l'échelle qui correspond à celle des possibles pour les élèves et leur âge en particulier. Ce qui serait à définir aussi. Et la deuxième mission, mais qui est liée, par la participation à des actions de développement durable, eh bien, une mission de préparation des acteurs à leur futur rôle en société. Donc il y a à la fois une dimension actuelle et une dimension future dans ces deux missions. Pourquoi on parle d'implication dans les actions de développement durable ? Eh bien parce que lorsqu'on met en place une action de développement durable, je prends un exemple comme ça un peu bêta, mais si on récupère de l'eau de pluie, par exemple, pour telle ou telle activité dans le cadre d'un établissement, l'eau de pluie récupérée, elle est vraiment récupérée. On ne fait pas semblant d'en récupérer de l'eau de pluie. Et donc, on participe vraiment à la gestion des ressources, chacun à son échelle. Vous savez que les Nations Unies avaient produit un rapport, parce qu'eux aussi, hein, au niveau mondial, il y a les défis du millénaire. Eh bien, la question de la gestion de l'eau douce et de l'eau de consommation peut se résoudre assez facilement si tous les habitants du monde arrivent à récupérer l'eau de pluie. Ça résout quasiment tous les problèmes d'eau douce à disposition. Sauf que pour l'instant, on n'a pas trouvé les moyens de faire cela, les moyens financiers, hein, de généraliser ça. Mais donc, ce genre de participation n'est pas du tout incongru. Alors, ces deux missions, si on les prend au sérieux, qu'est-ce que ça va donner après ? Ben, ça va poser un certain nombre de questions. Alors, pour l'éducation, éducation nationale en particulier, dans le cadre de l'école obligatoire. Alors, on a quand même des repères. Là, je reprends les repères qu'ont été élaborés Marcel Jolivet, à propos des recherches académiques. Mais ces repères fondamentaux sont valables, en fait, dans les conditions d'éducation. Premier repère, c'est, on en avait parlé un petit peu ce matin, maintenir en tension les deux termes. Les deux termes sont un peu contradictoires. Donc il y a un côté oxymorique en première approche à l'idée de développement durable. Mais quand on regarde bien, c'est en fait c'est la richesse. C'est bien parce qu'on met ces deux termes-là en tension, puisqu'ils sont légèrement en contradiction, qu'il va falloir réussir à trouver des solutions qui dépassent, au nom d'un principe commun, la tension qui existe entre les deux termes. Et donc, la première idée, c'est de ne pas refroidir le concept. Il ne faut pas en faire un objet de savoir comme les autres, comme on a l'habitude de le faire dans le cadre de l'éducation en général, dans l'école obligatoire. Le deuxième repère important, c'est de ne pas choisir entre une démarche qui serait descendante ou une démarche montante. Il faut les deux. L'injonction est plutôt descendante, hein, on l'a évoqué ce matin, mais cela doit inciter les acteurs du terrain à élaborer des projets nouveaux, à créer du nouveau. Et donc il y a les deux à penser. Et c'est bien en articulant le local et le global qu'on est au cœur du développement durable. Troisième repère, il faut éviter de s'enfermer dans nos habitudes, dans nos coutumes, dans nos routines, parce que il y a un univers de possibles à inventer au niveau de la société. Et si l'école elle-même n'est pas capable de renouveler ses possibles, et donc de créer du nouveau, de créer une nouvelle réalité, l'école restera en deçà de la demande de la société. Autre repère, il n'y a pas à choisir et à décider comme ça par le haut de ce qui serait une norme qui s'appliquerait à tous, quelle que soit la situation, mais il s'agit bien de rechercher dans chacune des situations, dans le contexte de la société, dans le contexte culturel dans lequel la question se pose, trouver dans chacune des situations des éléments de solution collective. Et enfin, Jolivet montre trois problèmes fondamentaux qu'il invite à questionner, parce qu'ils ne sont pas simples, ni pour les recherches académiques, ni pour l'éducation. La question de la temporalité, la question de la complexité, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment la complexité. Tout à l'heure, dans un groupe, hein, vous parliez des questions d'échelle, hein, d'échelle spatio-temporelle. Il y a aussi les échelles de complexité à gérer. Et on verra que chacune des disciplines ne permet pas de le faire, même si chacune des disciplines contribue. Et puis la question de la normativité, qu'il ne faut pas confondre avec une norme qui s'appliquerait comme une espèce de couvercle sur la créativité libérée des populations. Alors, quelles difficultés ont été repérées par les éléments de recherche ? D'abord, si on dit mission de participation à des actions de développement durable, la centration sur l'action, en général à l'école obligatoire, pose un certain nombre de questions, puisque traditionnellement, ce sont les savoirs qui sont au centre, ou les élèves, mais jamais l'action. Deuxième difficulté importante sur laquelle il faudra réfléchir, c'est la question des savoirs qui sont concernés. Il y en a dans le développement durable. Il y a beaucoup de savoirs. Il y a même énormément de savoirs qui seraient à maîtriser. Des savoirs nouveaux, comme savoir faire un bilan carbone, connaître l'idée de puits ou de sources de carbone, etc. Et on voit bien les difficultés que ça pose aux apprenants. Ceci dit, ces savoirs ont tous une particularité, c'est qu'ils sont incertains et mouvants, voire contestés. Je reviendrai plus tard sur l'idée d'hybride, c'est jeudi. Mais ces savoirs ont un statut particulier. Ensuite, troisième point, on a, dans le second degré en tout cas, une organisation extrêmement rigide et contraignante en matière et discipline. Et comment peut-on mettre en place des actions de participation à des actions de développement durable si on est enfermé dans sa matière ? Ça pose aussi la question de l'enseignant expert de savoir disciplinaire stabilisé pour lequel il est reconnu. Et là, tout d'un coup, on lui demande de contribuer autrement sur des choses différentes qu'il ne maîtrise pas, comme tout le monde d'ailleurs. Donc là, il faut réfléchir à comment on peut faire. Et donc, on a l'après-midi de jeudi pour essayer de réfléchir à ça. Ensuite, l'enseignant se trouve dans des modalités de travail différentes, puisqu'on est bien dans des modalités de travail collectif et on est bien sur des projets de réalisation de quelque chose. Et donc, pas dans la transmission patrimoniale de savoir validé au niveau scientifique et académique. On est dans d'autres procédés, d'autres processus. L'enseignant seul dans sa classe ne peut pas arriver à lui tout seul à mettre en place ce genre d'action. Donc ça pose aussi des questions au niveau de la gouvernance scolaire, comme ça pose des questions au niveau de la gouvernance globale. Et on ne peut pas être simplement dans une gouvernance hiérarchisée, descendante, habituelle. Et donc ça oblige tout le monde, ça déstabilise tout le monde à transformer ses pratiques. Et puis sur la question des intervenants extérieurs, on en a parlé aussi dans un groupe au moins, parce que j'en ai entendu parler, mais sûrement dans les autres. Il y a des nouveaux rapports à trouver avec des parties prenantes qui peuvent être complètement renouvelées. Alors certaines sont anciennes, existaient déjà, mais de façon un peu partielle, comme les familles. Alors de temps en temps, il y avait bien des interactions avec les familles. Là, ce genre d'éducation, comme l'éducation à la santé, ne peut pas se faire sans une mobilisation des familles, parce que si le message n'est pas cohérent entre les familles et ce qui se passe à l'école, il y a rejet de l'école. Et donc, il y a, en fait, inefficacité du message. Et puis, il y a des nouvelles parties prenantes. Il y a éventuellement les décideurs locaux, les élus, etc., qui peuvent être impliqués de façon complètement différente. Et par exemple, on a suivi une école qui se situait dans un réseau Ambition Réussite et qui voulait s'intégrer dans un projet de restructuration du quartier. Eh bien, on a assisté à un beau dialogue de sourds entre des élus pourtant à l'écoute et plein de bonne volonté, des enseignants pourtant à l'écoute et plein de bonne volonté, mais ils ne parlaient pas des mêmes choses. Ils n'ont pas réussi à bien s'entendre, à se mettre d'accord. Et donc il y a eu échec. Donc on se retrouve vraiment avec une façon de gérer les parties prenantes, terme qu'on emprunte aux entreprises, complètement nouvelles, et des responsabilités nouvelles aussi pour les enseignants. une responsabilité à la fois juridique et éthique complètement nouvelle. Dans le cas que je prenais en référence, si on demande aux familles de venir apporter, par exemple, les déchets ménagers pour faire du recyclage à l'école, quelles questions juridiques cela pose? Est-ce que les familles peuvent entrer comme ça à l'école? Non. À quel moment peuvent-elles entrer? Selon quelles questions de sécurité, etc. Ce qui pose des tas de problèmes. Et toutes ces questions-là, me semble-t-il, sont les questions à résoudre à la fois pour la formation et dans la formation. Alors derrière, c'est la conception de l'école qui est en train de changer. Et on entend parler de ça vaguement, mais fermement dans les médias. Certains sont partisans d'un refermement de l'école sur elle-même, l'école sanctuaire, non pas pour des mauvaises intentions, mais avec des arguments du type « il faut protéger les enfants des soubresauts de la société et du monde des adultes ». C'est un argument qui peut s'entendre. Depuis quelques années, il y avait eu des essais d'ouverture de l'école sur la société. C'est actuellement un petit peu en voie de refermeture. Or, le développement durable nous inciterait à une école complètement intégrée et partenaire dans la société, dans un quartier au moins. Alors, comment analyser maintenant la construction d'actions éducatives de ce type-là? Il y a bien longtemps qu'un chercheur anglais, c'est en 2000, avait montré que il y avait des tensions très difficiles à résoudre entre trois manières de piloter un curriculum, c'est-à-dire un ensemble de contenus, donc depuis le primaire jusqu'au secondaire, parce qu'il y a trois possibilités, trois types possibles, que sont un pilotage par des contenus, un pilotage par le processus et un pilotage par des objectifs exprimés en termes de compétences. De façon coutumière, l'école française, mais plus largement, en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle continental, c'est-à-dire européen continental, c'est-à-dire c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour la France et les pays qui se rattachent à cette tradition, ce qui est différent de la tradition anglo-saxonne à anglo-américaine. De façon coutumière, notre modèle est celui d'une organisation en termes de contenu, et ces contenus exprimés en savoir, eux-mêmes organisés en matière et discipline. Eh bien, cette organisation-là vient en conflit avec les deux autres façons de penser. Dewey, mes traditions anglo-américaines, lui disait que c'était le processus éducatif qui devait être la manière de piloter un curriculum. Et aujourd'hui, le système éducatif français se trouve en plus confronté à une réforme de fond, mais importante, qui est la réforme de l'entrée par les compétences. Et tout ça vient se bousculer. Or, si je mets les actions éducatives au centre de la façon de construire un curriculum de l'éducation au développement durable, je vais me heurter aux autres possibilités. En fait, la grande tension qui existe depuis qu'il y a école obligatoire, c'est celle d'une école qui est centrée sur le produit, par exemple des savoirs à apprendre, ou sur un processus qui est le processus éducatif. Et depuis Condorcet, depuis la Révolution française, les gens discutent de ça et se mettent pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Le plus simple serait d'enseigner le développement durable. C'est-à-dire, en fait, on découpe à l'intérieur des disciplines, et on met dans les programmes ce qui concerne, les SVT vont prendre la question de la biodiversité, la géographie, la question des échelles spatiales, etc. On découpe à l'intérieur et on enseigne le développement durable comme on enseignerait quelque chose d'autre. Mais on a dit ça ne répond pas aux missions telles qu'elles apparaissent. Et là, c'est un processus de refroidissement total. Et donc, ça aboutit le plus souvent à une greffe dans les matières ou les disciplines existantes sous la forme d'une recherche du sens pour les élèves. Ce sont les discours des enseignants qui disent cela. Pour donner du sens à mon programme, j'ouvre enfin d'une leçon, d'une séquence sur des questions de société ou sur des questions de développement durable. Et cela permet de donner du sens. Les autres manières possibles, c'est de se rabattre sur ce qui existe déjà comme l'éducation à l'environnement ou l'éducation à la citoyenneté. C'est une question là qu'il faut se poser. Quelle différence y a-t-il entre l'éducation au développement durable et l'éducation à l'environnement? Et beaucoup des projets que vous avez eu à regarder là, peut-être sont-ils plus des projets soit d'éducation à la citoyenneté, soit d'éducation à l'environnement, et peut-être pas des projets d'éducation au développement durable, mais selon quels critères? Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle des actions éducatives pour un développement durable, mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Parmi les possibilités telles qu'on peut les voir dans les pratiques effectives, il y en a quatre grandes qui se distinguent. D'abord, celle qui est centrée sur des éco-gestes. Là, il y a un effet de mode assez important dans les établissements. Donc, on va apprendre à faire des gestes. Il y a des gestes à faire et des gestes à ne pas faire. Tout à l'heure, j'entendais parler de, voilà, on ouvre, on ferme le robinet d'eau, on ferme les lumières en sortant, etc., d'une pièce. Hein, toutes ces questions-là, les éco-gestes, avec comme caractéristique le fait qu'elles ont une visée comportementaliste, le fait qu'elles sont extrêmement normatives, il y a le geste à faire et le geste à pas faire, et la troisième caractéristique, le fait qu'elles sont individuelles. Donc on renvoie en fait sur l'individu la responsabilité d'un développement durable en présupposant que c'est la multiplication de ces gestes qui aboutirait à une transformation. Alors, à la fois, il y a des aspects qui sont intéressants parce que de tout temps, on apprend aux enfants à avoir certains gestes et pas d'autres. De tout temps, on a appris, par exemple, à se laver les mains avant de savoir, avoir compris qu'est-ce qu'est le système immunitaire, qu'est-ce qu'un microbe, etc. Des tout petits, on apprend à se laver les mains ou à se brosser les dents sans savoir forcément pourquoi. Il n'est pas forcément inintéressant d'apprendre à fermer la lumière, à couper l'eau, à pas jeter ses déchets n'importe où, etc. Bon, sauf que ça renvoie uniquement sur un processus individuel. Et on n'est pas certain que l'accumulation de ces effets-là, qui existent, soit suffisante pour transformer en profondeur notre mode de développement. Ça intervient aux marges, ce n'est pas inintéressant, mais c'est peut-être pas suffisant. Et la posture qu'il y a derrière, en tant que philosophie de l'éducation, c'est davantage le behaviorisme avec avantages et inconvénients. Une autre manière qui est assez répandue, c'est la démarche par éco-délégué. C'est-à-dire, cette fois-ci, on est dans une norme, mais qui est simplement déléguée à quelques-uns. Et on pense que cette norme qui est montrée, en termes d'exemplarité, va petit à petit diffuser sur les autres. On est dans un rapport assez philanthropique aux autres. Hein. C'est je montre aux autres ce qu'il faut faire en espérant que voilà ces bonnes pratiques vont diffuser toutes seules. Sauf qu'il y a bien longtemps que les sociologues, la sociologie de l'organisation en particulier, a montré que ça ne fonctionne jamais comme ça. Il peut y avoir des parts de diffusion, donc il peut y avoir des effets de diffusion. Mais ce n'est pas un principe de base pour arriver à une transformation. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il y a des gens qui font, ça permet à ceux qui hésitent ou à ceux qui ne savent pas trop pourquoi il faudrait faire, de se dire « mais c'est pas la peine que je fasse puisqu'il y en a qui font et voilà, c'est suffisant en soi ». Donc c'est en fait, comme tout ce qui est philanthropique, très conservateur de ce qui existe. Troisième possibilité, qui est souvent répandue aussi, surtout en formation, donc ça a tout son intérêt en formation, ce sont les études de cas. Donc on prend un sujet précis et on regarde quels sont les discours, les actions des uns et des autres, et puis on essaye de se mettre dans un processus un peu de réflexion. donc un peu méta, et un peu comme on a fait là, hein, en fait, là, par rapport à des projets existants. Du point de vue de la formation, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de dégager des choses. Mais du point de vue de l'éducation, faire simplement des études de cas, qui serait le plus facile, hein, en fait, à faire dans le cadre d'une discipline telle que ça existe, c'est pas inintéressant, mais c'est probablement insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'on reste toujours sur le plan individuel. Et donc ça a un effet culpabilisant, en fait, comme tout à l'heure, par rapport à la norme comportementale. Ça renvoie à l'individu. Si je ne fais pas, ce n'est pas bien pour le groupe. Et le groupe me le fait sentir. Et puis la quatrième possibilité, ce sont des participations à des véritables actions de développement durable qui aboutissent à des processus à la fois collectifs et individuels, à décider en commun et à mettre en œuvre. Ce sont ces modalités-là qui permettent de développer le plus de transformation à la fois de la société et de transformation de soi-même. Et là, le cadre de la philosophie de l'éducation qu'il y a derrière, c'est le cadre pragmatiste. Nous, ce sont celles qu'on recommande en tant que possible. Reste à lui donner vraiment la possibilité d'être mise en place. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme de recherche, hein, c'est de développer et d'identifier quels sont les appuis et obstacles à cela. Mais au fur et à mesure qu'on le fait, en fait, on rend possible des choses qui, a priori, n'y étaient pas. Et donc, on participe à la transformation du réel d'une certaine manière. Alors, finalement, on arrive à quelque chose qui est comme ça. Faut que j'arrive plus vite. Trois diapos, vous m'accordez trois diapos encore ? Non, je vous remercie. Et donc, si je reprends le schéma tout à l'heure, je le modifie pour le transformer en cela. Ce qui va devenir central, ce sont les actions éducatives. Alors, ces actions éducatives, on les qualifie d'adisciplinaires parce qu'elles ne sont pas en soi disciplinaires. On va pouvoir illustrer avec les projets que vous avez examinés, les gens qui travaillent, je ne sais pas, par exemple, sur travailler sur une dune, l'aménagement d'une dune, c'est pas une, y a pas une discipline qui est concernée dans cette histoire-là. Hein, je prends un exemple comme ça. Voilà. Donc c'est indisciplinaire parce que ça n'appartient pas à une discipline. Donc ce sont des actions éducatives pour le développement durable. Mais en fait, si on ne fait que ça, on se rend compte que c'est largement insuffisant. C'est très intéressant, ça développe des tas de questions, ça apprend à décider en commun, ça apprend à trouver des solutions en commun, etc. Mais renvoie à une disparité, à une diversité qui est très grande. Donc il manque un certain nombre de repères plus fondamentaux, par exemple sur les enjeux globaux du développement durable. Quand vous travaillez sur un projet particulier qui est forcément local, vous n'allez pas passer en revue tous les enjeux globaux du développement durable. Ça veut dire qu'il faut, à côté des actions éducatives, mettre en place aussi des moments d'investigation, d'enjeux du développement durable, qui vont permettre en particulier de travailler les échelles. Et puis, il y a la question des disciplines. Qu'est-ce que font les disciplines dans tout ça ? Eh bien, les disciplines, on ne va pas s'en passer, mais simplement, on va les mettre à contribution. On va rechercher dans chacune ce qu'elle peut apporter aux actions éducatives mises en place. Mais une fois qu'on a dit ça, on reprend le même schéma que précédemment, en reprenant la même idée, c'est que l'articulation entre les trois pose problème, est en tension et ne va pas de soi. Donc des actions au niveau d'établissement, mais à quel moment peut-on faire des investigations en parallèle et sous quelle forme, et comment les disciplines peuvent-elles contribuer ? Tout cela est en tension, n'est pas évident, donc n'est pas en harmonie, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cercle. Mais ce sont en fait des facettes d'un cube. Il est très difficile d'arriver à concilier l'ensemble des facettes. Donc vous m'avez dit que j'arrêtais là, et donc on reviendra après. Peut-être juste un mot, parce que les actions éducatives, là on est en train de les regarder. Un dernier mot sur les investigations, parce que ça peut être intéressant avec Jean-Étienne Bidou demain d'en parler. Il y a une démarche qu'on ne va pas mettre en place, mais qui est une démarche extrêmement intéressante, donc je ne fais ici qu'évoquer, c'est la démarche par îlot de rationalité. C'est toute une démarche d'investigation qui a été élaborée, développée, et que Jean-Étienne Bidou développe dans ses stages en les faisant vivre, parce qu'on parlait ce matin de démarches de projet, avec des caractéristiques qui sont quand même assez nouvelles par rapport à ce qu'on appelle habituellement l'éducation par projet la plupart du temps. Voilà donc un certain nombre de questions, de pistes, dont vous pouvez ou pas vous inspirer en partie pour réinterroger, compléter et continuer votre travail d'organisation des critères de ce que seraient des éducations au développement durable.